Note sur l'épître de Jacques, recueillie dans des réunions d'études. Article du Messager évangélique de 1910. Chapitre 4.
D'où viennent les guerres et d'où les batailles parmi vous? N'est-ce pas de cela, de vos voluptés qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous n'avez pas. Vous tuez et vous avez d'ardents désirs, et vous ne pouvez obtenir. Vous contestez et vous faites la guerre. Vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de le dépenser pour vos voluptés. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Ou pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui demeure en nous désire-t-il avec envie? Mais il donne une plus grande grâce. C'est pourquoi il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes doubles de cœur. Sentez vos misères et menez deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez pas l'un contre l'autre, frère. Celui qui parle contre son frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas un observateur de la loi, mais un juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, et nous y passerons une année, et nous trafiquerons, et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera le jour de demain. Car qu'est-ce que votre vie? Car elle n'est qu'une vapeur, paraissant pour un peu de temps, et puis disparaissant. Au lieu de dire, si le Seigneur le veut, et si nous vivons, nous ferons aussi ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos vanteries. Toute jactance pareille est mauvaise. Pour celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui c'est péché.
Nous n'entrons réellement dans l'intelligence de cette épître que si nous comprenons qu'elle est écrite pour nous croyants. Il est évident qu'elle s'occupe aussi de ce qui constitue une profession sans vie. Mais nous perdrons beaucoup si nous n'appliquons pas à nous-mêmes ce qui est dit à cette profession. Si, par grâce, nous possédons une nouvelle nature, nous avons aussi la vieille nature, dont les fruits sont décrits au commencement de ce chapitre. L'apôtre Jean s'adresse directement aux chrétiens. Il voit en lui les deux natures, et il juge l'ancienne d'une manière absolue. Jacques juge le chrétien d'après sa conduite et le met en garde contre les fruits de la vieille nature qui sont absolument les mêmes que chez celui qui n'est pas régénéré.
Vous tuez !
Quel terme s'il s'agit d'un chrétien ! Mais n'avons-nous pas ce spectacle en David comme résultat de sa convoitise et de ses voluptés ? Il ne s'agit donc pas seulement des professants sans vie, d'une manière générale, mais de moi. Verset 1er.
D'où viennent les guerres et d'où les batailles parmi vous? N'est-ce pas de cela, de vos voluptés qui combattent dans vos membres?
Le verset 1er montre d'où viennent les guerres et les batailles. C'est des voluptés qui combattent dans nos membres. La volonté propre est en pleine activité pour satisfaire nos mauvaises passions. Nous convoitons, c'est-à-dire nous désirons nous approprier, pour la satisfaction de la chair, des choses qui sont opposées à la volonté de Dieu. Quand la guerre ouverte éclate, le combat avait déjà eu lieu dans nos membres. la volonté n'étant pas brisée dans le cœur, on cherche à la faire triompher au dehors, et c'est ce que l'on trouve à l'origine de toute dissension parmi les frères. Verset 2.
Vous convoitez et vous n'avez pas, vous tuez et vous avez d'ardents désirs, et vous ne pouvez obtenir, vous contestez et vous faites la guerre, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas.
On désire une chose, ce n'est pas toujours une chose mauvaise. On commence par la convoitise, on ne peut l'obtenir parce que Dieu ne permet pas que la propre volonté soit satisfaite. Dès lors, on est mécontent, on conteste, la haine prend naissance, on fait la guerre, on tue. Tout cela se rapporte à la volonté propre, qui n'est pas autre chose que le péché, c'est-à-dire qu'elle ne reconnaît pas une volonté en dehors de la sienne.
Le péché est l'iniquité.
Ou la propre volonté. Verset 3.
Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de le dépenser pour vos voluptés.
On demande et l'on ne reçoit pas. On demande ce que Dieu ne peut donner, et on ne demande pas ce qu'il veut donner, parce qu'il n'y a dans le cœur ni dépendance, ni soumission à la volonté de Dieu. Verset 4.
Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu ? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu.
Adultère, c'est moral. Une adultère abandonne ses relations avec son mari pour se livrer à un autre. Cela est constamment reproché à Israël par les prophètes. Le peuple abandonnait Dieu pour l'idolâtrie. Nous sommes en danger d'abandonner notre relation avec Dieu en aimant le monde, car on ne peut aimer les deux ensemble.
Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses.
Luc 16, verset 13. Combien facilement nous cherchons à laisser subsister ces deux choses dans nos cœurs. Nous suivons le monde, ses projets, ses motifs, sa manière d'agir, et nous voudrions en même temps servir Dieu.
Quiconque voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu.
Le monde a manifesté toute sa haine contre Dieu à la croix. Il ne peut donc y avoir aucune communion entre Dieu et le monde, et pas davantage entre le chrétien et le monde. Verset 5.
Ou pensez-vous que l'Écriture parle en vain ? L'Esprit qui demeure en nous, désire-t-il avec envie ?
L'Écriture, qui nous met en garde contre l'amitié du monde, parle-t-elle en vain ? La convoitise et les mauvais désirs viennent-ils de l'Esprit qui demeure en nous chrétiens ? Cet Esprit fera-t-il en nous ce que la chair fait en vous ? L'Écriture est contraire à ce que vous faites et l'Esprit aussi. L'Écriture vous avertit qu'il n'y a pas possibilité de mélange avec le monde. Verset 6.
Mais il donne une plus grande grâce. C'est pourquoi il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. »
L'Esprit, au lieu de désirer avec envie, donne une plus grande grâce. Si je romps avec le monde, j'aurai à souffrir de sa part, mais je recevrai une plus grande grâce. Quand, pour plaire à Dieu, notre marche est séparée du monde, Dieu nous accordera une faveur spéciale, une grâce plus grande à tous égards, une jouissance plus nette et plus profonde de bénédictions déjà connues, mais que, peut-être, nous ne réalisions que partiellement parce que nous donnions au monde une place dans notre cœur. Notre propre volonté étant mise de côté, nous sommes humbles, dépendants de Dieu. Rien n'est plus abominable aux yeux de Dieu que l'orgueil. Nous nous indignons facilement d'un péché grossier, mais Dieu ne parle d'aucun péché plus fortement que de l'orgueil. C'est le péché satanique, la faute du diable. Tout orgueil du cœur est en abomination à l'Éternel, Certes, il ne sera pas tenu pour innocent. Proverbe 16, verset 5.
Celui qui a les yeux hautains et le cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas.
Psaume 101, verset 5.
Je hais l'orgueil et la hauteur.
Proverbe 8, verset 13.
L'orgueil va devant la ruine et l'esprit hautain devant la chute.
Proverbe 16, verset 18.
L'Éternel démolit la maison des orgueilleux.
Proverbe 15, verset 25.
Il y a un jour de l'Éternel désarmé contre tout ce qui s'exalte et s'élève, contre tout ce qui est haut, et ils seront abaissés.
Ésaïe 2, verset 12. Cet orgueil peut être caché dans le fond de notre cœur. Alors Dieu nous discipline, nous fait passer par une série d'épreuves. Cela peut paraître étrange à d'autres, que des chrétiens, fidèles du reste, soient battus de tant de coups. Mais Dieu, qui voit dans le cœur cet orgueil caché, ne le supporte pas. Il veut l'ôter, il nous humilie, pour nous faire jouir de la grâce qui appartient aux humbles. Verset 7.
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira de vous.
Ce verset se relie à ce qui précède. Puisque Dieu résiste aux orgueilleux et donne la grâce aux humbles.
Soumettez-vous donc à Dieu.
C'est l'absence de volonté propre comme moyen de jouir de la grâce. Seuls les humbles reçoivent une plus grande grâce. Notre nature est une nature de propre volonté dont le caractère est de ne pas se soumettre. Elle est en opposition absolue avec celle de Christ qui dit, en entrant dans le monde,
« Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. »
Il y avait en lui une soumission parfaite à la volonté de Dieu. La parole était sa seule règle de conduite. Par cette soumission et cette obéissance à la parole, il résista à Satan et, après avoir traversé toute la tentation, chassa l'ennemi. Si nous agissons ainsi, si nous présentons Christ au diable, il ne pourra rien et s'enfuira de nous. Dans la description de l'armure complète de Dieu, en Éphésiens 6, une seule arme est offensive, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Toutes les autres armes nous mettent en état de résister à l'ennemi et consistent en un bon état intérieur. On ne saurait que faire de l'épée de l'Esprit si la parole n'avait pas produit premièrement ses effets en nous-mêmes. L'armure de Dieu doit être complète. La première condition de toute cette armure, c'est un cœur sans volonté. Être sobre et veillé, 1 Pierre 4, versets 7 à 9, sont des caractères à revêtir pour pouvoir résister. 1 Pierre 4, versets 7 à 9.
Mais la fin de toutes choses s'est approchée, soyez donc sobre et veillé pour prier. Mais, avant toute chose, ayant entre vous un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés, étant hospitaliers les uns envers les autres sans murmure.
Verset 8.
Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vous-mêmes, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes doubles de cœur. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous.
Quel heureux changement! Satan en fuite et Dieu s'approchant. Dieu s'est approché de nous pour nous sauver, mais nous avons ici une question pratique. La réalisation de cette proximité, dans l'intimité de la communion, lorsque ce qui peut empêcher la jouissance de la présence de Dieu est jugé, jouir de cette bienheureuse présence est l'état normal du chrétien, mais il s'introduit mille choses dans le cœur avec lesquels Dieu ne peut marcher, en sorte que nous avons besoin d'en être délivrés afin de pouvoir nous approcher de Dieu avec une bonne conscience. Alors Dieu s'approchera de nous. Nous trouvons ce principe dans les Proverbes, chapitre 8, verset 17.
J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouveront.
Aussi, dans Jean 14, versets 21 et 23.
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jésus répondit et lui dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. »
Pour jouir de cette communion, qui ne peut être réalisée que dans la présence de Dieu, il faut donc se purifier.
Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes doubles de cœur.
Soyez, dit la note, dans l'état de quelqu'un qui a fait cela. Dieu ne se tient pas à distance de quelqu'un qui s'est purifié et qui demeure dans cet état. Lorsque l'Éternel invite Jacob à habiter Bethel, Jacob comprend immédiatement ce qui, dans sa maison, était incompatible avec la présence de Dieu. Il dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui,
« Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et purifiez-vous, et changez vos vêtements, et nous monterons à Bethel. »
Puis Dieu lui apparut, s'approcha de lui, lui révéla son nom, le fit jouir de sa communion, et renouvela ses promesses. Si nous ne jouissons pas de la communion de Dieu, nous pouvons être certains que quelque chose n'est pas en ordre dans nos cœurs, quelque souillure ou un cœur double, tolérant des choses avec lesquelles Dieu ne peut marcher. Verset 9.
Sentez vos misères et menez deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse.
Les versets 9 et 10 nous présentent l'esprit qui convient à celui qui se trouve devant Dieu. Il n'oublie pas son propre état. Il emmène deuil en pensant aussi à celui dans lequel se trouve la chrétienté, le monde. Il fait partie des bienheureux qui pleurent et qui seront consolés. Au chapitre 2 des Actes, nous voyons l'effet que produisit la prédication de Pierre sur les Juifs lorsqu'il leur montra leur culpabilité quant au rejet du Messie. Sa parole produisit cet esprit de contrition qui les amena au salut. C'est le même esprit qui animera le résidu et produira la grande humiliation dont parle le prophète Zacharie au chapitre 13. C'est à quoi Joël exhorte le peuple dans le passage auquel Jacques fait allusion ici. Joël 2, versets 12 et 13.
« Ainsi encore maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne et avec pleurs et avec deuil, et déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et il se repent du mal dont il a menacé. »
Dieu veut que nous soyons vrais devant lui. L'oubli de nos misères peut nous porter à nous élever et à trouver des sujets de joie dans ce monde où l'homme s'élève et se distrait de Dieu et de son état misérable par la recherche de vaines jouissances. Dans la communion avec le Seigneur, nous pouvons pleurer, nous aussi, sur nos faiblesses, sur notre facilité à nous détourner de Christ, sur l'état de l'Église et celui du monde. Cet appel à sentir ses misères, à mener deuil et à pleurer, ne s'adresse pas seulement à nous, mais à la profession tout entière. Remarquons que c'est la seule fois que la parole nous exhorte à sentir quelque chose. Elle ne cultive pas les sentiments, mais cependant, elle veut que nous sentions nos misères pour les confesser, nous en humilier et être gardés dans l'humilité. Si d'habitude elle n'ordonne pas les sentiments, c'est parce qu'elle donne au cœur un objet dont la jouissance se fait sentir et réaliser par la foi. Verset 10.
Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera.
C'est devant le Seigneur qu'il faut s'humilier, dans sa lumière, dans la conscience de ce qu'il est lui-même. Là, nous voyons clairement ce que nous sommes. L'humiliation n'est jamais véritable sans cela. Il nous arrive d'être humiliés de ce que notre conduite est venue à la connaissance des autres. Dans ce cas, ce n'est pas autre chose qu'un orgueil blessé. tandis que la véritable humiliation a lieu devant le Seigneur, où tout est vu dans sa propre lumière. Après cela, il nous élèvera. Nous trouvons la même pensée en 1 Pierre 5, verset 6.
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu.
Il vient un temps, dit l'apôtre, où Dieu pourra élever les siens sans danger pour eux. Versets 11 et 12.
Ne parlez pas l'un contre l'autre, frère. Celui qui parle contre son frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas un observateur de la loi, mais un juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain ?
Parler contre son frère est plus sérieux qu'on ne le pense et n'a lieu que trop fréquemment. C'est un grand danger pour le développement et la paix des assemblées, une source de difficultés et de divisions. Dire du mal de son frère ou le juger, c'est parler contre la loi et juger la loi, car elle dit
« Tu n'iras pas ça et là, médisant parmi ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Lévitique 19, versets 16 et 18. Juger, c'est critiquer les motifs qui font agir. Or, cela n'appartient qu'à Dieu, qui lit dans le secret des cœurs. Nous sommes responsables de juger la marche de nos frères, s'il y a lieu, en vue de les ramener. Nous jugeons ainsi des faits accomplis. Mais quant aux motifs qui font agir nos frères, nous n'avons pas le droit de les juger. Certaines personnes semblent être douées pour cela d'une perspicacité extraordinaire, mais leur habileté provient, au fond, de ce qu'elles sont capables d'avoir les mêmes motifs qu'elles condamnent chez les autres. Le Seigneur dit en Matthieu 7, versets 1 et 2,
« Ne jugez pas, afin que vous ne soyez point jugés, car du jugement dont vous jugerez, vous serez jugés, et de la mesure dont vous mesurerez, vous serez mesurés. »
En Romains 14, verset 4,
« Qui es-tu, toi, qui juges le domestique d'autrui ? Il se tient debout ou il tombe pour son propre maître. »
Celui qui juge n'est pas un observateur de la loi. Il s'élève au-dessus d'elle, il sort entièrement de sa place, prenant celle de Dieu, qui seul est législateur et juge, lui qui peut sauver et détruire.
Mais qui es-tu, toi qui juges ?
Un objet de grâce ou un objet de jugement ? Ce n'est pas accomplir la loi que de parler contre son frère. L'apôtre dit en Romains 13
« Celui qui aime les autres a accompli la loi. »
Et en Galates 5, verset 13
« N'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais, par amour, servez-vous l'un l'autre, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. »
En contraste avec cette disposition de juger, 1 Corinthiens 13 nous montre ce que fait l'amour.
Il ne pense pas le mal.
Versets 13 à 16.
À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, et nous y passerons une année, et nous trafiquerons, et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera le jour de demain. Car qu'est-ce que votre vie ? Car elle n'est qu'une vapeur paraissant pour un peu de temps, et puis disparaissant, au lieu de dire, si le Seigneur le veut, et si nous vivons, nous ferons aussi ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos vanteries. Toute jactance pareille est mauvaise.
Ces versets condamnent l'indépendance et la volonté propre qui agissent comme si Dieu n'existait pas. Quelqu'un a appelé cela l'athéisme pratique. C'est l'oubli de Dieu qui seul sait ce qui arrivera demain, et aussi l'oubli de la vanité de la vie humaine, vapeur qui paraît pour un peu de temps et puis disparaît. La cause de cette indépendance se trouve dans l'avidité des biens de ce monde. On veut gagner de l'argent, se faire une position.
Nous irons, nous trafiquerons, nous gagnerons.
Le croyant peut se proposer ce qu'il pense devoir faire, mais il subordonne ses projets à la volonté de Dieu, disant
« Si le Seigneur le veut, et si nous vivons, nous ferons aussi ceci ou cela. »
Il demeure dans la soumission à la volonté du Seigneur. Cette vanterie, dont le cœur naturel se glorifie, est mauvaise. Verset 17.
Pour celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui c'est péché.
On peut connaître le bien et ne pas l'accomplir, c'est péché. La nature nouvelle, la conscience guidée par la parole, nous enseigne ce que nous avons à faire selon la pensée de Dieu. Mais si la volonté propre agit et nous empêche de faire ce que nous savons être bien, nous péchons. On dit que c'est faire le mal qui est péché, mais ici, c'est ne pas faire le bien. Que de choses, dans notre vie pratique, où nous nous abstenons de faire ce qui est bien, sont péchés en présence de cette déclaration de la parole. À cela se relie la pensée du chapitre 3, verset 1.
« Ne soyez pas beaucoup de docteurs, mes frères. »
Car on peut savoir ce qui est bien pour le prêcher aux autres et ne pas l'accomplir soi-même. On s'expose ainsi à un jugement plus sévère. Dans toutes les exhortations de ce chapitre, nous voyons que la volonté propre doit faire place à la dépendance et à l'humilité. Les fruits de la vieille nature doivent être remplacés par ceux de la nouvelle.